Bonjour à tous, c'est le mercredi 22 juillet et nous sommes ici pour le mug numéro 203. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Bonjour à tous ceux qui sont dans la chatroom, bonjour à ceux qui mettront des commentaires dans l'émission et bonjour à ceux qui nous écoutent en audio. Voilà, c'était un bonjour général en ce mercredi ensoleillé encore. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous êtes bien installés devant votre petit-déj pour ceux qui nous suivent en live parce que on se retrouve à 8h du matin. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va avoir des articles de l'actualité tech un peu générale. Et puis, on terminera avec un sujet assez intéressant sur est-ce que l'industrie du cinéma doit se renouveler ou renouveler la distribution de ses films, voilà, avec l'impact de la crise sanitaire. Et est-ce que la technologie peut aider par rapport à ça. Voilà, donc je vous ai fait une petite mise en bouche, on va dire, de la tartine de cette fin d'émission, mais je vous propose de commencer quand même, comme il se doit, avec les news. On va commencer avec justement une news tech, je pense que vous avez peut-être vu passer, puisque ça touche une société française notamment, Le Bon Coin. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été annoncé hier? Bah, Adevinta, qui est le propriétaire de Le Bon Coin, a acheté le groupement de services de petites annonces d'eBay. Rien que ça. Donc, en effet, donc Adevinta, c'est pas français. Hein, voilà, je préfère le préciser. C'est une société qui est norvégienne. Elle est née en 2019 et elle est née, en fait, d'une scission avec le groupe de médias Schibsted. Je ne sais pas si je prononce le nom très bien, mais je m'excuse si j'ai froisser les oreilles de certains. Donc voilà, donc c'est une société norvégienne qui détient le site Le Bon Coin, que l'on connaît tous, puisque site énormément connu en France, qui n'est plus du coup français. Oui, je vois que Guillaume est déçu d'ailleurs qu'il ne soit plus français, mais bon, on peut voir quand même qu'il y a eu un succès du côté de Le Bon Coin, parce qu'ils ont réussi à négocier un rachat. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont annoncé, le groupe Adevinta a annoncé justement hier, donc c'est vraiment tout frais, qu'ils avaient conclu un accord en vue d'acquérir la totalité d'eBay Classified Group, donc à l'exclusion des actifs danois. Donc qu'est-ce que ça veut dire, les eBay Classified Group? Eh bien, tout simplement, c'est la branche mondiale des petites annonces d'eBay, de la société eBay Inc., qui représente, donc là, ils l'ont racheté pour une valeur de 9,2 milliards de dollars, ce qui représente 8 milliards d'euros environ. Voilà. Laurent nous dit, ça a toujours été norvégien, Le Bon Coin. Ah d'accord, bah écoutez, je ne savais pas du tout. C'est vrai que j'avais toujours eu l'impression que Le Bon Coin, ça avait démarré en France, mais peut-être pas, en effet. Merci pour la correction, Laurent. Voilà. Ok. Donc merci pour la petite rectification. Mais bon, en tout cas, on connaît très bien le site Le Bon Coin en France. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ben donc la transaction, comment elle se fait? Eh ben, ça sera eBay va recevoir à la fois 2,5 milliards de dollars et également des actions de la société Adevinta. Donc c'est à moitié l'un, à moitié l'autre. Enfin, pas exactement à moitié, hein, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant? Donc voilà, eBay Classified Groups, c'est vraiment l'entité internationale qui gère tous les sites de petites annonces d'eBay. C'est un leader à l'échelle locale dans 13 pays, nous informe le communiqué. Et ils ont notamment un portefeuille de marques assez impressionnant avec mobile.de, Gumtree. Bon, après, je ne vais pas tous les citer, mais ceux qu'on peut connaître, notamment, c'était Gumtree, Kijiji, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Automobile.it, Motors.co. UK, Cars Guide en Australie, voilà, donc il y a pas mal de choses, dont des sites que moi je connaissais en tout cas, je sais pas s'il y en a que vous connaissez, je vais pas tous les prononcer parce que ils sont pas tous écrits en anglais ou en français, et donc je vais encore une fois m'étaler avec la manière dont je prononce les mots. Voilà, donc ça c'est pour du côté d'eBay Classified Group. Du côté d'Adevinta, Adevinta, la société opère dans 15 pays aujourd'hui et génère environ 3 milliards de visites. Enfin, le rapprochement, en tout cas, ils espèrent que ce rapprochement va pouvoir générer 3 milliards de visites par mois en combinant justement la force des deux entités ensemble. Ça va permettre justement d'avoir un profil financier combiné très très solide, un potentiel, enfin en tout cas un chiffre d'affaires estimé à 1,8 milliard de dollars, donc ça sera assez intéressant. Ça va permettre d'accélérer et développer des produits et services, de centraliser l'expertise de chacun en matière de données, de publicité, de produits et de technologies, parce qu'il y a vraiment des synergies en termes de sites de petites annonces, hein. Et ça va permettre également de lancer de nouvelles expériences pour les consommateurs, les particuliers et les vendeurs professionnels. Parce que évidemment, si on peut suivre les personnes à travers leur expérience, à travers différents sites de petites annonces, c'est aussi assez intéressant et ça peut enrichir le profil des utilisateurs qui utilisent justement l'un des différents sites de petites annonces. Oui, oui, François, c'est exactement ça. François qui nous dit, il rachète pas eBay, mais eBay Petites Annonces, tout à fait. C'est uniquement une partie bien spécifique d'eBay, c'est eBay Classified Groups qui représente les entités de petites annonces d'eBay, exactement. Pour, au cas où c'était pas clair. Donc voilà, ça va être assez assez intéressant. À savoir, en France, Le Bon Coin est également propriétaire du groupe Argus, du site Vidressing et de Locason, qui est un acteur de réservation en ligne de résidence et de location professionnelle, et également de Paycar, qui est, elle, une solution de paiement entre particuliers pour l'achat de véhicules d'occasion. Voilà pour ça. Donc, on commence à voir vraiment une vraie stratégie d'envergure. Ça sera intéressant de voir le développement et la suite de ce que va proposer Adevinta parmi les différents actifs qu'ils ont. Tout à fait, ça va permettre au groupe d'Adevinta d'agrandir leur part de marché. C'est exactement ce que j'ai dit, ouais. Donc on va voir. Ça va à la fois permettre de leur permettre de s'étendre dans potentiellement des pays où ils n'étaient pas présents, de renforcer leur offre petites annonces et de potentiellement avoir des synergies entre les différents sites de petites annonces, parce que du coup, on va pouvoir voir si des personnes vont utiliser le principe de petites annonces pour différents secteurs, que ce soit automobile, location de vacances, que ce soit achat d'objets d'occasion, etc. On va voir un petit peu ça. Et du coup, ça permettra aussi potentiellement de les targeter de manière plus précise d'un point de vue publicitaire. À voir. Donc ça sera intéressant, c'était une des grosses annonces d'hier. Mais c'est pas la seule, puisqu'on va également revenir et prendre des nouvelles du côté d'Ubisoft. On en a pas mal parlé, puisque justement, dans ces 15 derniers jours, Ubisoft a été grandement secoué, à raison, on en a déjà bien parlé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Bah, tout simplement, le PDG Yves Guillemot s'est exprimé pour la première fois dans une vidéo adressée aux salariés d'Ubisoft. Donc, il s'est adressé dans cette... Enfin, cette vidéo a été publiée hier, donc le 21 juillet. Et donc, il s'adresse aux 18 000 employés à travers le monde. Et il a commencé justement par dire qu'il était véritablement désolé et qu'il remerciait les personnes qui ont partagé leur histoire. C'est la première fois que le PDG s'exprime publiquement. Il ne s'est pas exprimé publiquement, il s'est exprimé publiquement envers ses employés, pas forcément vers la presse, mais il avait quand même plutôt évité le sujet jusqu'ici, notamment lors de la conférence Ubisoft Forward, même si pourtant la démission de Serge Asco avait été annoncée quelques heures auparavant, donc ça avait été assez étonnant. Mais en tout cas, voilà, là, cette vidéo revient sur l'affaire, adresse le sujet auprès des employés. Je pense qu'en effet, c'était important d'avoir... Enfin, je pense que c'était critique même pour Ubisoft que une responsabilité, là, le PDG, donc c'est très bien, s'adresse directement aux employés, parce que bon, on peut se demander si on a encore envie de travailler dans cette boîte qui a été entachée, largement. Donc ça, c'est assez intéressant que ça soit adressé. Je pense que beaucoup, beaucoup d'employés se posent des questions, sont inquiets. Le mec se réveille maintenant. Je suis un peu d'accord avec toi, Clément. Je trouve que la réponse a été tardive. Mais il y a eu une vidéo. Il y a eu une réponse. Voilà, il s'est adressé. Mais en effet, je trouve que ça a été un peu lent à la détente. Comme de manière générale la réponse de l'industrie sur ce type de sujet, il faut vraiment secouer pour qu'il se passe quelque chose, bah donc il faut secouer. Voilà. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? On revient sur le sujet de la vidéo quand même, sur quand même saluer le fait que Yves Guillemot a essayé d'adresser le sujet. Et donc, évidemment, il est revenu sur les mesures qui avaient déjà été annoncées, notamment le recours à des cabinets de consultants extérieurs pour réaliser des enquêtes. Il y a notamment Accenture qui va faire justement un espèce de d'état des lieux de ce qui se passe. Ils vont mener une enquête, hein, ils vont réaliser un audit sur la situation actuelle au sein d'Ubisoft. Il y aura la création d'un poste de Head of Workplace Culture et également il y aura la mise en place d'un système d'alerte interne pour permettre à chacun de remonter des comportements qui ne devraient pas arriver. Mais en plus de ça, il a voulu aborder d'autres sujets, d'autres mesures pour montrer que la société, que Ubisoft souhaitait aller plus loin. Et notamment, ils vont mettre en place un Support and Recovery Center qui sera destiné aux victimes de harcèlement, qui permettra notamment de les mettre en relation avec des psychologues spécialisés. Ce centre sera géré par un partenaire indépendant, heureusement, j'ai envie de dire, parce que là, quand on subit, je suppose, hein, quand on subit ce genre d'événement au travail, c'est encore plus compliqué et quand on voit l'historique d'Ubisoft par rapport à ce type de sujet, on n'a pas forcément confiance sur le bon traitement du sujet, donc il faut en effet être dans une démarche de restauration de la confiance, ce qui est beaucoup plus compliqué, hein, c'est beaucoup plus compliqué d'essayer de conserver une confiance, c'est beaucoup plus compliqué, pardon, d'essayer de restaurer une confiance que de garder une confiance. Une fois que ça a été brisé, c'est compliqué. Donc ça sera intéressant de suivre un petit peu l'évolution au niveau de l'image publique d'Ubisoft. Donc là voilà, ce centre en tout cas, cette démarche sera gérée par un partenaire indépendant. Il gérera également la réception de messages des employés qui souhaitent témoigner de comportements problématiques. En plus de ce centre, tous les employés devront suivre des formations afin de prévenir le harcèlement et les discriminations. Et les managers devront suivre des stages intensifs de leur côté. Autre mesure qui va être prise. Oui, tout à fait, super chinoise. Je pense que tu as bien résumé, la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Tout à fait. C'est assez intéressant. Il y a eu une grosse enquête publiée hier dans Bloomberg. C'est la première grosse enquête en anglais. Ça peut expliquer la réaction d'Yves Guillemot. Oui, alors Tic Tac Oumi, j'ai pas vu. J'ai raté l'enquête de Bloomberg. Je vais pas rentrer dans les détails de à quelle heure l'enquête de Bloomberg est sortie, à quelle heure la vidéo est sortie. Peut-être que Bloomberg avait averti aussi Ubisoft en amont qu'ils allaient publier l'enquête, donc du coup ils ont pu se préparer. Dans tous les cas, on peut spéculer que c'est pas uniquement la pression des médias qui ont encouragé Yves Guillemot à s'adresser, c'est aussi le fait que les employés actuels d'Ubisoft sont à risque, puisque quand il y a comment dire, un événement pareil dans une boîte, tu te demandes si tu as vraiment envie d'en faire partie. Et je pense qu'il y a vraiment, enfin, c'était important pour Ubisoft qu'ils adressent ce problème, qu'ils puissent en parler. Voilà. Donc, mais voilà, il peut y avoir plusieurs raisons, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun rapport avec l'enquête de Bloomberg. Et donc, l'autre mesure dont je voulais parler, c'est notamment au niveau des services des ressources humaines. C'est évident qu'il y a eu un vrai problème sur la gestion ressources humaines de cette affaire. Voilà. Je ne vais pas m'étendre sur est-ce que les ressources humaines avaient les mains et poings liés ou est-ce qu'ils ont quand même une part de responsabilité. Voilà, c'est pas, je veux pas rentrer dans ce débat-là. Je pense qu'en effet, il y avait des personnes tout à fait compétentes, qu'il y avait plusieurs critères. Ça devait pas être une situation facile, mais il y a un vrai problème. Et donc du coup là, ils annoncent en effet qu'ils vont réorganiser le service, refondre entièrement le service des ressources humaines. Ils vont mettre en place des nouveaux outils pour que les ressources humaines aient plus d'influence et surtout soient plus indépendants. Et notamment, ils auront la possibilité de contourner leurs supérieurs directs afin de pouvoir parler directement au board des directeurs. Donc je pense que c'est en effet intéressant de pouvoir avoir plus d'indépendance et de pas pouvoir être mains et poings liés par les supérieurs, notamment quand voilà, ça touche des personnes dans ce cercle-là. Donc à voir s'il y aura des mesures un peu plus concrètes. Là, pour l'instant, c'est plutôt assez, c'est plutôt une, comment dire, un témoignage de bonne volonté, on va dire ça comme ça. On verra comment c'est concrètement mis en place. Nous, on le verra probablement pas. On aura peut-être des témoignages d'employés d'Ubisoft dans le futur. Voilà pour l'information. Il a également encouragé les employés à remplir le questionnaire qui leur avait été envoyé il y a un mois pour justement adresser un petit peu le sujet sur le sujet du harcèlement et du sexisme. Et donc le questionnaire, justement, pose des questions assez frontales, hein, notamment leur demande s'ils ont été témoins ou victimes de commentaires sexistes, harcèlement sexuel ou agression. Ça va permettre aussi de prendre la température, de voir un peu à quel degré ça se répand. Oui, en effet, Chief of Work, 1, 2, 3, Workplace Culture, c'est un nouveau poste. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ils l'ont créé en effet. Voilà. Et donc, une autre priorité du groupe, en dehors du harcèlement, du sexisme, etc., c'est la culture du crunch dans l'industrie du jeu vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est le crunch? C'est la période de travail qui est intense et qui s'étale parfois sur plusieurs semaines avant un rendu important, ce qui force en fait les employés, ce qui leur met beaucoup de pression à faire des heures, beaucoup d'heures de travail, quoi. Donc ça fait pas mal de temps hein, que cette pratique est combattue par les syndicats des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. On va voir si ils arrivent en tout cas à faire bouger un petit peu le curseur sur cette pratique. C'est pas la seule industrie qui est victime de notions de crunch, mais voilà, ça ne le rend pas légitime pour autant. Je pense qu'il y a un vrai problème sur la gestion des deadlines. Et je pense qu'on peut se challenger sur justement comment préserver la santé physique, mentale et le bien-être au travail pour donner envie aux gens de rester bosser dans une boîte et de ne pas leur mettre des pressions pareilles. Voilà, donc on va voir ce qui va se passer. Puis Évidemment, je pense qu'un des piliers pour l'entreprise, ça va être la notion de diversité hein, pour Ubisoft. Voilà, plus ils arrivent à diversifier les futurs profils recrutés, plus ça va permettre d'encourager aussi plus de tolérance, de respect envers la différence, et donc d'éviter d'avoir un groupe dominant qui va voilà, essayer d'oppresser et d'avoir la main mise sur un autre groupe, une autre population. Donc ça sera intéressant de voir s'ils arrivent justement à changer ça au niveau du recrutement. Ce qui est un vrai enjeu, hein, et pas que chez Ubisoft, mais en général dans les sociétés tech, la diversité est un vrai sujet où on a du boulot. Voilà. Voilà pour ce sujet. En tout cas, le PDG s'est exprimé pour ses employés. Voilà, Numérama, l'article que j'ai fait ce matin avait réussi à récupérer des sources de cette vidéo. Donc voilà. On continue dans les actus. On continue et cette fois-ci, on prend des nouvelles de Snap. Snap qui a publié justement les résultats de son second trimestre de l'année 2020, qui a été évidemment touché par la crise sanitaire, comme beaucoup, beaucoup, on va dire, toutes les sociétés à peu près. Plus ou moins après, hein. Certaines sont touchées positivement, certaines sont touchées négativement, mais la grande majorité quand même, c'est relativement négatif. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, le rapport du second trimestre 2020, on voit que la croissance, en tout cas la croissance de sa base d'utilisateurs, a augmenté jusqu'à 9 millions d'utilisateurs journaliers dans le dernier trimestre, et son revenu a augmenté de 17% durant le deuxième trimestre, et pour atteindre 454 millions de dollars. Donc on voit une croissance, c'est-à-dire qu'en effet, malgré la crise sanitaire, Snap a réussi à garder quand même une certaine croissance, mais ça représente pas énormément. C'est-à-dire que si on regarde année après année, en janvier et en février, on avait une croissance de 58%, voilà, et ça a décliné jusqu'à 25% en mars. Donc voilà, ça a été quand même largement impacté. C'est vrai que le futur est assez. Snap, c'est Snapchat. Snap, c'est la société qui a Snapchat. Voilà. Et donc, le futur est relativement incertain parce qu'on ne sait pas encore combien de temps la crise sanitaire va durer. On ne sait pas si le comportement des publicitaires, s'ils vont plus couper leur investissement, enfin, voilà, réguler et couper leur investissement ou pas. À savoir que jusqu'ici, les publicitaires sur Snapchat n'ont pas trop diminué leur investissement, ce qui est quand même, voilà, intéressant à suivre parce que sur d'autres plateformes, l'impact s'est fait largement ressentir, notamment sur YouTube, Facebook ou d'autres. Bon, après, Facebook a été touché par d'autres sujets. Et donc les publicitaires se sont un peu bloqués contre Facebook. Mais voilà, la crise sanitaire, quand même, quand les business vont mal, le premier budget qui est coupé, c'est le budget marketing et publicitaire. Sauf qu'en tout cas, Snapchat, eux, pour l'instant, s'en sortent plutôt bien. Mais voilà, ils font pas de plan sur la comète. Ils se disent, attention, le futur est plutôt incertain. Donc on va être plutôt... Excusez-moi, hein, j'ai l'article en anglais, c'est un petit peu compliqué. On va prendre des pincettes. Alors non, c'est pas ce que je voulais dire, mais on va faire attention, on va dire ça comme ça. J'arrive pas à parler français ce matin. Voilà. J'utilise Snap juste pour deux, trois amis qui envoient de temps en temps quelque chose, mais en général, je n'ouvre pas l'app. Eh bien, écoute, Brezend, c'est pas la tendance générale pour Snapchat. En effet, C'était assez logique qu'il y ait une croissance d'utilisateurs durant la crise sanitaire et surtout qu'il y ait une croissance de l'usage de Snapchat en général. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand les gens sont confinés chez eux, ils s'ennuient, il faut qu'ils trouvent quelque chose à faire et les réseaux sociaux sont tentants. Surtout quand on est dans une logique de distanciation sociale où on voit moins ses amis, on a moins d'interactions sociales. Que ce soit avec ses collègues, ses voisins, etc. Et donc, du coup, on va se reporter sur quelque chose qui va pouvoir nous permettre de recréer du lien social. Et donc, les réseaux sociaux sont en première place. Et donc, du coup, on a vu que les utilisateurs ont vérifié, enfin, ont tendance à ouvrir Snapchat environ 30 fois par jour. Et que, justement, l'équipe de Snapchat a pu voir qu'il y avait une augmentation d'activité dans les groupes, dans les jeux, dans les appels et dans les chats. Snapchat a lancé notamment 5 jeux dans le trimestre dernier et ils ont pu voir que le temps moyen passé par jour sur les jeux ont plus de doublé durant le mois de mars. Donc on voit clairement que le confinement a eu un impact positif ici sur les données et les stats de Snapchat. Voilà. Donc on va voir, encore une fois, c'est des données sur le second trimestre. Ils disent en effet que ça ne promet rien pour les trimestres suivants et tout va dépendre en effet de l'évolution de la crise sanitaire. Donc on va voir. Ah, Brezan nous dit qu'il a essayé les jeux et ils sont cool. Bah tu vois, t'as 5 nouveaux jeux, donc si tu les as pas testés, tu seras tenté. Super Chinois 127 nous dit qu'elle observe que nous utilisons moins Snap, mais ma sœur en terminale a tous ses groupes classe sur Snap et pas sur Messenger par exemple. Elle envoie des vocaux, elle discute beaucoup par Snap. Ouais, bah ça m'étonne pas en effet. Je pense que à cet âge-là, notamment tu vois en terminale, collège, enfin lycée, etc. En fait, le rapport que tu as avec Facebook, il est beaucoup plus distant quoi. Je pense que plus t'es jeune, moins t'as de probabilité d'utiliser Facebook ou un service de Facebook comme Messenger. Donc voilà en tout cas pour Snap. Pour l'instant, ils s'en sortent plutôt bien. On verra un petit peu le troisième trimestre, comment ça se déroule. On continue du côté d'Apple. Apple qui, voilà, continue sur son image. De nourrir son image positive, on va dire. Et cette fois-ci, c'est pas sur la sécurité et la protection des données privées des utilisateurs, mais c'est sur l'empreinte carbone de la société. Donc ça, c'est un autre cheval de bataille d'Apple. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Eh ben, tout simplement, ils ont annoncé ce mardi 21 juillet, hein, donc hier, que l'entreprise s'est donné 10 ans pour atteindre une neutralité carbone complète pour sa chaîne d'approvisionnement et ses produits. Donc, c'est le nouvel objectif que souhaite remplir Apple, donc en matière environnementale, au cours des 10 ans à venir. Donc, ils se fixent un objectif à l'horizon 2030. Le but est vraiment d'annuler l'impact climatique de chaque appareil qu'Apple vend en 2030. Voilà. Donc ça veut dire que voilà, ils souhaitent ramener à zéro hein, les émissions nettes de dioxyde de carbone. Voilà. Et donc pour ça, il faut en gros que le volume de CO2 qui est libéré dans l'atmosphère soit égal au volume qui en est extrait. Et cette approche est particulièrement importante pour limiter le réchauffement climatique. C'est un vrai enjeu pour chaque société. Apple est-il le groupe le plus actif sur la qualité environnementale? Écoute, je ne sais pas à l'échelle de société, mais à l'échelle de société tech, on va en parler justement. C'est une très bonne question. Donc, en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est l'objectif est très, très ambitieux car il va toucher des dizaines de fournisseurs avec qui Apple traite. Parce qu'en effet, quand Apple dit qu'il souhaite avoir une empreinte carbone de zéro, eh ben forcément, ça va impacter aussi les fournisseurs avec, et les partenaires avec qui ils travaillent. 200 d'entre eux représentent 98% des dépenses d'approvisionnement en matériaux, fabrication et assemblage de ces produits dans le monde entier durant l'année fiscale 2018. Et on retrouve parmi eux des géants comme Foxconn, Pegatron, Intel, Qualcomm et Samsung. Donc c'est intéressant, si Apple arrive à faire bouger l'aiguille sur cette balance de, d'équilibre carbone, d'empreinte carbone, par exemple, côté Samsung, bah, si Samsung arrive à se réorganiser pour aligner avec les objectifs d'Apple, ils vont pouvoir aussi l'appliquer à leurs propres produits potentiellement. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est vraiment cette goutte d'eau qui va potentiellement se répercuter sur d'autres entreprises et qui pourrait généraliser le mouvement. En tout cas, c'est pas la première fois, hein, c'est pas nouveau cet engagement écologique, puisqu'en 2013, Apple annonçait qu'ils alimentaient la totalité de leur centre de traitement de données en sources d'énergie renouvelable et ils se sont... Voilà, ils ont continué avec cet engagement, puisqu'en 2015, ils ont bâti deux nouveaux data centers en Europe pour 1,7 milliard d'euros, mais également avec un souci de ne pas utiliser d'énergie carbonisée. On espère, oui, qu'ils n'utilisent pas d'énergie carbonisée. Bref, donc voilà, pas d'énergie liée au carbone. Et justement, leurs efforts ont été salués par Greenpeace. Donc, on posait la question tout à l'heure si Apple était la société la plus, proactive en termes de démarche environnementale, je ne sais pas, mais en tout cas à l'échelle des sociétés tech et des géants tech, en tout cas Greenpeace a salué les efforts en 2014 et ça n'a pas toujours été le cas, hein. Apple s'était déjà fait justement épingler mais voilà, le dernier bilan de Greenpeace qui remonte à 2017 loue encore une fois la politique d'Apple et ils disent notamment que Apple reste parmi les plus agressifs du secteur dans ses efforts pour alimenter sa plateforme en ligne avec des énergies renouvelables. Voilà. Et il y avait notamment déjà une influence sur la chaîne d'approvisionnement et les autres acteurs de l'informatique qui étaient notés par Greenpeace. Après, tout n'est pas parfait, hein. Il regrettait notamment la lenteur de ce déploiement, de ce changement, mais bon, voilà. En tout cas, comment ça va se matérialiser ? Il va y avoir notamment des emprunts à hauteur de centaines de millions de dollars pour notamment des projets écologiques, notamment potentiellement soutenir l'emplacement de forêts, etc., etc. Il va y avoir également des projets de recyclage intégral des iPhones, grâce notamment, on en a déjà parlé, aux robots Liam et Daisy. Il va y avoir un nouveau robot aussi qui va être mis en place pour un composant spécifique, pour démonter et réutiliser un composant spécifique de l'iPhone. Je crois que c'était... Ah, je ne l'ai plus en tête. Je l'ai mis dans les articles Nowtech. Est-ce que je vais le retrouver? J'essaie de vous retrouver ça rapidement. Mais bon, comme Flipboard change l'ordre des articles, c'est jamais très facile. Pas sûr que je réussisse à trouver. Je crois que c'était le... Le composant haptique, mais je ne vais pas retrouver l'article. Ah oui, voilà. Si Apple présente Dave, voilà, c'est Dave. Et donc, qu'est-ce qu'il va nous proposer, Dave ? Voilà, c'est ça. Il va permettre de démonter le Taptic Engine de l'iPhone. Voilà. Tout ça, toujours encore une fois, dans cette optique d'empreinte carbone neutre à l'horizon 2030. Voilà. Donc, on aura donc trois robots, Liam, Daisy et Dave, qui vont permettre justement d'automatiser le recyclage des iPhones en démontant des composants. On va avoir également d'autres actions ponctuelles, hein, qui vont mobiliser l'écosystème et le public. Il y a également aussi éviter l'obsolescence trop rapide du matériel. Et comment, par quoi ça passe? Bah, ça passe notamment par le support de nombreux modèles d'iPhone sur les derniers systèmes d'exploitation d'Apple. Donc là, notamment, iOS 14 sera proposé sur 30 modèles d'appareils différents pour Apple. Ça ne veut pas dire, évidemment, toutes ces démarches, ça ne veut pas dire que Apple va facilement atteindre son objectif. En tout cas, c'est une feuille de route, un but qu'ils se sont fixés, à voir si ils vont pouvoir l'atteindre. Mais surtout, je pense que le point critique, c'est voir si Apple peut avoir un impact positif, une influence positive sur l'industrie en général, sur le secteur de la tech en général, et initier un mouvement qui sera suivi par d'autres. Et c'est intéressant parce que la petite anecdote, c'est justement, ils avaient fait une campagne un peu provocante. J'essaye de vous montrer le tweet sur ce principe, où comme quoi il y a des contextes où Apple souhaite être copié. Et donc là, la pub nous dit, il y a quelques idées où on souhaite que toutes les compagnies, toutes les sociétés nous copient. Et donc là, on voit clairement qu'ils montrent les panneaux d'énergie solaire, les panneaux photovoltaïques, justement pour l'énergie renouvelable. Voilà en tout cas pour les différentes initiatives et cet engagement d'Apple concernant la neutralité, l'empreinte neutre en carbone. On continue. Et cette fois-ci, on va parler de Google. Google, on va continuer sur la notion de climat, puisqu'on va parler vélo et Google Maps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, Google Maps s'étoffe du côté des vélos en libre service pour muscler un petit peu son service et proposer des fonctionnalités un peu intelligentes concernant notamment les vélos en libre service et les informations de fréquentation des stations de vélo. Tout ça pris en compte dans le calcul et le temps de l'itinéraire sur Google Maps. Donc c'est hyper intéressant. Donc tout simplement avec l'application, vous pourrez désormais repérer les différentes stations de vélo en libre service comme les stations Vélib. Je suis sûr qu'il y en a plein là. S'il y a des Parisiens dans la chatroom, je suis sûr qu'il y en a plein qui en utilisent. Et vous pourrez en prendre un et le réserver directement dans l'application. En tout cas, c'est la promesse. Elle indiquera notamment, l'application indiquera aussi le nombre de places disponibles à la station et tiendra compte de l'emplacement de dépôt dans le calcul de l'itinéraire et du temps de trajet. Voilà, donc vraiment de vous guider de votre porte à la station de vélo en libre service, de votre itinéraire jusqu'à la station de dépôt, et ensuite continuer à votre destination, quoi. Donc je trouve ça plutôt vraiment intelligent. Vraiment complet, c'est du début à la fin, vous serez guidé et accompagné par l'application Google Maps. A priori, vous allez, c'est ce qu'ils disent, hein, pouvoir réserver avec les marques partenaires directement au sein de l'application. Donc plus besoin d'avoir des applications intermédiaires, etc. Ça simplifie aussi l'expérience, hein, plus besoin de sauter dans 36 000 applications pour réserver un vélo, ensuite calculer l'itinéraire, etc., etc. Vous pouvez faire tout depuis une même app. Et donc, il y aura plusieurs opérateurs de vélo partage qui seront compatibles avec Google Maps, puisque ça dépend aussi des villes dans lesquelles vous êtes. Pourquoi Google Maps travaille et Google décide d'investir dans ces fonctionnalités? Ben, tout simplement, c'est directement lié aussi à l'augmentation drastique des déplacements à vélo depuis le début de la pandémie, hein. D'après Google, le nombre de trajets réalisés en vélo sur Google Maps aurait bondi de 69% durant cette période de pandémie, ce qui est logique puisqu'en effet, on encourage beaucoup moins les transports collectifs. Même si, en effet, sur une empreinte écologique, le transport collectif est nettement meilleur qu'une voiture, qu'un transport individuel. Mais avec le vélo, Et des vélos notamment, même pas électriques, mais des vélos tout simples, il n'y a même pas d'empreinte, il y a une empreinte sur la notion de fabrication du vélo et d'entretien potentiellement, mais voilà, et après il y a les vélos électriques aussi qui ont ces recharges, bref, ça permet quand même des déplacements respectueux de l'environnement. Pour l'instant, on ne va pas s'emballer. Ça ne va pas être disponible en France. Donc là, c'est vrai que je vous ai parlé des Vélib, mais ce n'est pas encore le cas, hein. Ce que je peux vous dire, c'est que la fonctionnalité est testée actuellement dans une bêta fermée. Seules 11 villes aujourd'hui ont accès à cette bêta et Londres est la seule ville européenne concernée pour l'instant. Voilà. Mais voilà, on peut très logiquement spéculer que Google va souhaiter développer ça et mettre en place ça dans le maximum de grandes villes au plus vite, quoi. Et calcule les travaux aussi. Ça, je sais pas, Guillaume, je sais pas le sujet. Mais j'avoue, je me rappelle pas si Google prend en compte les travaux. J'en sais rien. Comme j'utilise plutôt en piéton, j'ai pas trop ce problème-là. Voilà en tout cas pour les initiatives du côté de Google Maps. En tout cas, moi je le vois. Hein, moi-même, je prends même plus le métro. Je vais juste à pied au bureau, quoi. En fait, alors c'est vrai qu'en métro, je mettais 20 minutes pour aller au boulot. Et là, je mets en marchant vite 35 minutes. 35 minutes, 40 minutes quand je suis un peu fatiguée. Et en fait, je me dis, ça me fait marcher, ça me fait du bien, il fait beau, ça me permet d'avoir un moment pour écouter les podcasts, pour penser un petit peu à ma journée. Et c'est moins stressant que les transports en commun où je serai à proximité avec les gens, j'ai pas trop envie, etc. Voilà, donc au final, j'ai la chance d'être pas très loin du travail. Je sais que plein de personnes, c'est pas du tout le cas. Et donc du coup, voilà, en étant à 35 minutes, 35-40 minutes du boulot, ben pour l'instant, je marche. J'avais repris un petit peu le métro, je crois, la première fois où je suis allée au bureau. Et en fait, j'ai pas trop aimé l'expérience et du coup, depuis, j'y vais à pied. Et à pied, tu gardes la forme. Oui, c'est sûr. Ça fait du bien, surtout que comme je reste le cul assis sur une chaise toute la journée, je veux dire, mon boulot, c'est pas forcément très épuisant physiquement. Voilà, ça fait du bien, quoi. Petite pause thé. On continue. On continue encore sur le sujet de l'impact environnemental. Alors, peut-être pas tant que ça, mais un petit peu quand même. J'essaye de trouver des liens entre les articles. Hein, vous voyez, c'est stratégique, l'ordre des articles du matin. Et bien, cette fois-ci, on va parler de SpaceX. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est pas une nouvelle incroyable, mais SpaceX, lors de son dernier lancement, a enfin réussi à récupérer les deux morceaux de la coiffe d'une fusée Falcon 9 grâce à des bateaux qui ont été déployés au large. Ce qui n'avait pas été fait jusqu'ici, hein. SpaceX n'avait jamais réussi à récupérer les deux parties d'une coiffe d'une fusée Falcon 9. Ça a été annoncé par Elon Musk ce mardi 21 juillet et ça s'est passé lors de la mission Anasis 2 qui est partie de la base de lancement de Cap Car Car Canaveral. Canaveral, je vais y arriver, en Floride. Et le principe de la mission, c'était de déployer en orbite un satellite de communication militaire pour le compte de la Corée du Sud. Ça s'est bien déroulé, puisque non seulement le satellite a été déployé avec succès à l'altitude souhaitée, mais le premier étage du lanceur a été récupéré. Donc ça, ce que SpaceX arrivait à faire jusqu'ici, voilà, de manière plutôt récurrente. Et en plus, la coiffe également, pour la première fois, les deux parties de la coiffe ont été récupérées grâce aux deux bateaux au large. Voilà, c'est vraiment une vraie étape, en tout cas, que marque SpaceX, puisque jusqu'ici, ils n'avaient pas réussi à récupérer les deux parties. En juin 2019, ils avaient récupéré uniquement la moitié d'une coiffe qui avait été attrapée par les filets d'un bateau déployé au large. Mais à l'époque, le premier étage avait été perdu en mer, ce qui est problématique. SpaceX avait également réussi à récupérer une coiffe qui avait fini sa course dans l'océan, donc c'est différent aussi parce que du coup ça veut dire qu'elle a touché l'eau et donc elle sera impactée par des effets de corrosion notamment. Mais là voilà, on a vraiment une vraie évolution et une vraie étape dans la réutilisation et la réutilisation, le moindre coût de la remise en état du matériel, etc. Alors, qu'est-ce que c'est une coiffe ? Les coiffes, c'est un élément très important de la fusée puisqu'elles assurent la protection des charges utiles, notamment ici, là, pour cette mission, c'était le satellite. Et ça se déroule pendant le vol ascensionnel de la fusée, tant que l'atmosphère est trop dense. Donc elle donne aussi au lanceur un profil aérodynamique et donc protège donc la charge de la chaleur, la pression, des intempéries et des rafales du vent qui endommagerait évidemment la charge. Donc là, je vous montre un petit peu la course naturelle d'une fusée Falcon 9. Et donc on peut voir que en effet le lanceur se sépare très tôt dans la course et entame sa descente relativement tôt. La coiffe, elle, se sépare après, alors que la charge a continué son séjour ascensionnel. La coiffe se déploie plus loin et retombe plus tard dans la manœuvre. Voilà. Et donc tout ça, hein, pourquoi c'est un vrai enjeu de pouvoir récupérer dans le meilleur état possible la coiffe, tout simplement parce que la reconstruction représente quand même 6 millions de dollars d'investissement. Donc pour, vous le savez, un des critères de SpaceX, c'est là où ils arrivent à réduire les coûts, c'est de pouvoir justement récupérer et réutiliser les éléments d'équipement qu'ils utilisent pour leurs fusées et les lancements. Donc à la fois les lanceurs, le premier étage de la fusée que jusqu'ici ils réussissaient à récupérer de manière fréquente. Voilà, mais la coiffe, voilà, c'était un autre critère. Et le fait de permettre de récupérer la coiffe dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire sans qu'elle touche l'eau, pour éviter ces effets de corrosion, c'est également, ça va faciliter le travail de réparation, remise en état, pour accélérer potentiellement d'autres lancements et éviter d'avoir trop de matériel en même temps et de construire plusieurs coiffes. Voilà. Guillaume, en effet, c'est ce que j'ai dit, la coiffe, ça sert à l'aérodynamisme. Soit vous êtes trop rapide, soit vous écoutez pas ce que je dis. voilà. avant SpaceX, rien n'était jamais récupéré dans les fusées. Alors, je veux pas dire d'erreur, mais de ma compréhension, pas vraiment. À chaque fois, c'était une nouvelle fusée, donc énormément de coûts, et ils pouvaient, enfin, voilà, à part les costumes des cosmonautes, on va dire ça comme ça, je suis pas sûre que tu pouvais réutiliser beaucoup de choses à chaque lancement. Et le coût restait astronomique, encore une fois. Donc voilà, bonne nouvelle et succès en tout cas pour SpaceX. C'est assez positif du côté de la limitation des coûts et du coup de l'impact de la production des fusées. C'est la fin des articles tech ce matin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu votre plein d'actualités tech. Avant de terminer, je souhaite vous rappeler que pour ceux qui souhaitent tenter de gagner un mois gratuit de Shadow avec le PC dans le cloud, vous avez tous les détails sur comment tenter de gagner dans la description de l'émission. Vous avez même un exemple de tweet qui va sûrement être posté dans le chat très bientôt. Il y aura le bot qui va être déclenché d'une seconde à l'autre. Hop, parfait, synchronisation. merci la communauté. Et donc, je vous propose de passer sans plus tarder à la tartine. Alors voilà, la tartine, vous le savez, j'aime bien parler de streaming, j'aime bien parler de divertissement et tout ce qui peut, tout ce à quoi on peut avoir accès sur le web. Et là, je fais un petit peu une petite entorse à ça, puisque je vais vous parler d'un film qui doit sortir en salle, mais qui a du mal. Et ça, je pense que vous l'avez vu, on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est le prochain film de Christopher Nolan qui s'appelle Tenet. Tenez, Tenet, je ne sais pas comment on le prononce. Moi, je vais dire Tenet. Voilà. Et donc, dernier film en date de Christopher Nolan, qui représente un budget de 200 millions de dollars, hein, quand même. C'est assez énorme. Et qui aligne pas mal de personnalités dans le cast. On retrouve... Alors, je ne connais pas cet acteur-là, mais je sais que c'est un fils de très, très connu. Alors attendez, je crois que j'avais le nom quelque part. Je vais vous retrouver ça. Puisque j'ai le synopsis. Et ça. Voilà. Ah non, c'est pas un fils d'eux. Ah, si, 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 voilà, j'en étais sûre. C'est le fils de Denzel Washington. Voilà. Donc, John David Washington, qui est l'acteur principal du film Tenet, qui est le fils de Denzel Washington, et qui est, je peux vous dire, voilà, son père était très bien. On voit qu'il y a de la famille là-dedans. Et donc, du coup, ce film essaye de sortir en salle, mais il n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça fait plusieurs fois que la sortie a été retardée, tout simplement, vous le savez, hein, à cause de cette crise sanitaire. Donc, Warner Bros. S'est exprimée. Elle s'était... Alors, j'ai pas les différentes dates de report, mais voilà, Warner Bros. En tout cas nous informe que cette fois-ci, la sortie du film de Tenet de Christopher Nolan a été repoussée, cette fois indéfiniment. Voilà, alors que ça devait sortir en août, il me semble, début août. Donc voilà. Le président, en tout cas, de Warner Bros. S'est exprimé là-dessus, comme quoi ils vont annoncer une date de sortie bientôt. Et le but, évidemment, c'est d'assurer les meilleures chances de succès au film en soutenant les cinémas partenaires avec de nouveaux contenus dès qu'ils pourront réouvrir en toute sécurité. Évidemment, avec la crise sanitaire, il y a beaucoup, beaucoup de cinémas qui ne peuvent pas ouvrir. Et donc, ça met à risque la stratégie et le succès potentiel d'un lancement de film. C'est pas Ok, j'ai perdu toutes mes notes. C'est pas très grave. C'est pas désintéressé comme initiative. Par contre, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il nous dit, le président de Warner Bros. Précise qu'il ne traite pas Tenet comme une sortie mondiale normale, et nos futurs plans concernant le marketing et la distribution reflèteront ce changement. Et ça, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que potentiellement, ça va potentiellement pouvoir challenger la sortie unique en salle. À voir. Est-ce que ils vont pas pouvoir penser une stratégie un peu plus holistique pour la sortie des films, avec à la fois une distribution en ligne, potentiellement à la fois une distribution dans les cinémas, potentiellement des événements interactifs avec la communauté via des jeux comme Fortnite. Je vous rappelle que notamment la bande-annonce de Tenet était sortie en avant-première sur Fortnite. Donc, ça ne serait pas une première fois. Et puis, également, il y a Batman Begins qui a été offert aux joueurs lors d'une séance improvisée aussi sur Fortnite. Donc, on voit hein, qu'il y a les prémices peut-être d'un changement de mindset dans la méthode de distribution des films. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, où la technologie va pouvoir permettre un accès plus global au contenu de divertissement. Et c'est pas la première fois, hein. On l'a vu avec les plateformes de streaming. Voilà, donc là, je fais le lien avec le streaming. Mais l'accès à la musique, où on est passé du physique, l'achat d'albums, à la plateforme iTunes, des titres dématérialisés avec l'iPod, etc., à carrément des abonnements type Spotify, etc. Donc, on voit que les modes de consommation, d'accès au contenu changent, évoluent. Et donc, c'est tout à fait logique que la méthode de distribution, qui est directement liée, et de marketing, va être aussi impactée. Bref, n'investissez pas dans un réseau de salles de cinéma pour l'avenir, nous dit Jérôme. Oui, là, c'est pas forcément la meilleure période, on va dire. C'est un très bon point. Voilà. En tout cas, je trouvais que l'article, en tout cas, de Numérama était très, très intéressant sur cette réflexion. Petite précision. La sortie du film Tenet en France est toujours prévue au 12 août. En effet, la déclaration du président de Warner Bros. Pardon, ne touche que le marché nord-américain pour l'instant. Voilà. À savoir que vu l'évolution de la situation en France, on n'est pas à l'abri. Hein. Rien ne garantit encore une fois que la sortie le 12 août sera maintenue. Mais pour l'instant, on n'a pas eu d'annonce officielle sur un report, etc. Donc ne soyez pas inquiets. Inutilement, voilà, on va voir. Après, ce qui est intéressant, c'est en effet, on a déjà vu la réaction aussi de plusieurs réalisateurs qui étaient pas forcément favorables à une sortie sur des plateformes de streaming, parce qu'en effet, hein, il y a plusieurs manières d'aborder ça. On peut se dire, au lieu de sortir en salle, on va sortir sur les plateformes de streaming, puisque de toute façon, il y a le confinement. Mais on peut aussi se dire, on va le sortir en salle où c'est possible, le sortir sur des plateformes en streaming où c'est possible, et organiser des événements interactifs pour créer une émulation. Puisque c'est ça aussi, hein, le principe de sortir en salle, c'est créer une émulation de communication pour donner envie aux gens de regarder un programme. Et donc potentiellement, on peut combiner, en fait, au lieu d'avoir juste une manière de déployer un contenu, on peut combiner différentes méthodes en fonction des différents marchés et de la situation sanitaire sur les différents marchés pour essayer de créer une émulation à l'échelle mondiale. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les sorties, voilà, maintenant on en parle, les films sur les réseaux sociaux, on en parle avec des tweets en anglais, en français, dans les différentes langues, et on arrive à créer une émulation à l'échelle internationale. Et je pense qu'il y a aussi cet enjeu-là de comment recréer ça pour créer le succès du film. Donc, à voir, je pense que ça va... Voilà, remettre en perspective ce sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans la chatroom. Jean-Marc Jansovici disait que les cinémas physiques, c'est fini. Voilà, à voir. En tout cas, c'est une période particulièrement difficile, en effet. Et oui. Un lancement anticipé, les plateformes de SVOD peuvent compter pour le box. Je comprends. Office, en tout cas, ça devrait. J'ai rien compris à ton message, le tutoriel. Je comprends pas comment ton message est construit. Il y a un sujet, un verbe, mais... Bref. Désolée. N'hésite pas à le reformuler pour que je comprenne. La tendance pour le moment, ce sont les cinés en plein air. Oui, on a vu cette tendance revenir aux États-Unis. C'est très, très... Il y a aussi un petit courant nostalgique. C'était mieux avant, parce que c'était les drive-in. C'était très, très américain. On le voyait dans les films et tout. C'est pas si répandu que ça en France, mais il y a eu des initiatives, j'ai vu. Puis il y a également eu à la Villette les bateaux drive-in. Il y a une petite séance avec 39 bateaux, je crois, à la Villette pour pouvoir avoir une projection du Grand Bain. On verra cet hiver pour les salles en plein hiver, ouais, c'est clair. Après, il faudra faire fonctionner le chauffage des voitures, mais... En Belgique, il y en a plein qui se sont montés ces dernières semaines. Oui, mais ça, c'est aussi lié, en effet, à la période de l'année. Hein. Le cinéma en plein air, c'est très, très sympa en été. Ah, aussi, il y a aussi des initiatives de drive-in, d'accord, en Belgique. Ah, d'accord, le tutoriel. Merci beaucoup d'avoir reformulé. Tu nous dis, les plateformes de SVOD, ça devrait compter pour le box-office. Très intéressant, ouais. Je pense qu'en effet, ça fera partie des discussions. Et également, il y a un autre sujet, c'est à la fois comment tu comptabilises pour le box-office et également comment tu qualifies un film pour les récompenses. Parce qu'il y a le Cannes, il y a les Oscars, etc. Et on a déjà eu ce sujet et il y a du lobby qui rentre en jeu. Bref, à voir. En tout cas, voilà, c'est la fin de l'émission. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce sujet, mais ça sera, je pense que l'industrie va devoir se challenger, questionner un petit peu sur le futur et essayer de trouver des choses un peu plus innovantes. Sur ce, je vous propose de terminer avec tout simplement un camp de fac. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up. Désolée, j'ai un débris de thé qui est coincé dans la gorge. Il faut que je change ma pince à thé. Je bois et je mange du thé en même temps là. Je vais y arriver. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce up si l'émission vous a plu, ça nous aide vraiment. Hein. C'est pas une blague, ça nous aide vraiment à tout simplement être recommandé à d'autres personnes qui pourraient découvrir l'émission. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez nous soutenir financièrement. Il y a différentes méthodes pour ça. Il y a les liens d'affiliation, il y a Tipeee, voilà, il y a plein de manières de le faire. Bon appétit, merci Eric. J'aurais préféré non, mais. Voilà. Et donc du coup, bah, pour ceux qui restent avec moi durant ce corn fac, évidemment, vous pouvez me poser des questions. C'est le moment du corn fac où j'essaie de répondre à vos questions dans la chatroom. Il n'y a pas de questions platinium, donc je peux commencer avec la première de Mouikmouikator. J'aime bien ton pseudo. Avez-vous Artemis Fowl sur Disney+? Si oui, quel est votre avis? Alors non, je l'ai pas vu Artemis Fowl. Je l'ai pas vu parce qu'en fait, il y avait pas mal de nouvelles séries à voir et en fait j'ai fait un choix personnel, complètement personnel et en fait j'avais entendu pas des super bons retours sur Artemis Fowl donc c'est pas une série que j'ai privilégiée et puis elle avait l'air de plutôt s'adresser à un public un peu plus jeune puisqu'on retrouve un jeune je crois plutôt genre adolescent pour ça. Et donc du coup, je me suis pas trop identifiée, logiquement. Et puis j'ai pas d'enfant, donc je risque pas m'identifier non plus. Donc non, je l'ai pas priorisé. Les dernières séries que j'ai regardées, et voilà, on peut en parler, hein. Les dernières séries, je vous en avais parlé un petit peu la semaine dernière. Donc attendez, le temps que TV Showtime arrête de bugger. Je ne sais pas si j'ai trop de séries ou TV Showtime a des problèmes en ce moment, mais elle a du mal à s'ouvrir des fois. Donc les séries que j'ai regardées en ce moment, c'est... Donc je continue Dark. Je continue Dark. Alors j'avais eu du mal au début, parce que je pense que j'étais pas dans un mindset très réceptif à Dark. J'avais pas forcément envie d'une série sombre, avec un univers froid, etc. Enfin... voilà, c'est vrai qu'en plus on avait regardé aussi la série Tales from the Loop et donc ça faisait un peu beaucoup. Et donc du coup, bah d'ailleurs Tales from the Loop pour l'instant on l'a pas continué parce que comme c'est pas super super feuilletonnant, et ben on peut regarder des épisodes un peu séparés les uns des autres. Mais j'ai quand même envie de regarder parce que la série est magnifique. Mais bref, voilà. Dark finalement, je me suis assez maintenant laissé prendre à l'histoire. J'en suis même à la saison 2 pour tout vous dire. Donc je regarde pas forcément plusieurs épisodes par soir, mais voilà, un épisode c'est pas mal. Et je me suis laissé prendre voilà, y a des personnages qui sont assez attachants, notamment le personnage principal de Jonas. Donc voilà, j'aime bien, je trouve que les acteurs jouent bien. Et donc Jérôme ne continue pas, mais moi je continue finalement. J'ai fini de regarder I Know This Much Is True. J'avais un superbe anglais là. Et donc là, en fait, cette série, j'ai eu beaucoup de mal. Le jeu des acteurs est super. Vraiment, là-dessus, Mark Ruffalo est incroyable et tous les acteurs secondaires sont super. Mais en fait, je comprends pas l'intérêt de cette série. C'est une série très, très, très dure. À part pour montrer le lien entre deux frères et la problématique, la difficulté d'accompagner quelqu'un avec une condition de santé mentale particulière et les challenges que ça représente pour les proches et pour les institutions qui sont en place, pas adaptées et pas en faveur d'un soutien, d'un accompagnement approprié. Mais le propos était un peu étouffé. Bref, je pas forcément suivi quel était le propos global de la série, quoi. À la fin, je me suis dit, j'ai pas passé un bon moment avec cette série parce qu'elle était vraiment dure. Donc c'était pas un plaisir de regarder cette série. Et j'en ressors pas avec quelque chose de super intéressant. Donc voilà. Mais encore une fois, la série était magnifique, très bien tournée, très bien jouée, l'histoire était super poignante, mais j'ai du mal à pointer du doigt pourquoi elle a existé cette série. Alors après, ça peut être juste pour nous conter une histoire émouvante, etc. Mais quand t'as une histoire qui est aussi difficile que ça, t'essayes d'en apporter quelque chose. Alors si ça te fait pas rire, c'est pas cathartique, c'est pas divertissant, parce que concrètement c'était pas super divertissant. C'est peut-être informatif, mais là pas vraiment. Ça peut être critique, pas vraiment, parce que ça détaille pas non plus le problème des institutions. Donc bref, j'ai du mal à voir le positionnement en fait de la série là-dessus. Qu'est-ce qu'on a regardé? Love Life. Oui, j'ai pas continué. Jérôme préfère arrêter, pas convaincu. Moi, je suis pas convaincue par l'héroïne principale, mais comme je suis très très bonne cliente de ce type de série romantique, je vais continuer. On binge-watch actuellement Superstore. Mais alors, on binge-watch, quoi. C'est notre série du week-end, légère, marrante, sans conséquences. En fait, elle nous permet de nous changer les idées. C'est un format court, 30 minutes, où on suit le quotidien d'employés d'une chaîne de grands magasins aux États-Unis. Et donc, on peut trouver à la fois du matériel tech, des couches, de l'alimentaire, de la pharmacie, de la parapharmacie, etc. Et donc, on suit le quotidien des employés. Et en fait, c'est plutôt efficace. Et comme c'est court, s'il y a un épisode un peu plus faible que les autres, c'est pas très très grave. Et donc ouais, on a besoin de choses plus légères. Je pense que le confinement nous a un peu tapé sur le système. Et en fait, là, on a besoin de se changer les idées. Donc heureusement qu'on a une semaine de vacances qui arrive là. Mais je pense que quand même, on a besoin de se changer les idées. On a besoin de séries très très légères. Et ça fonctionne bien. Et comme il y a beaucoup de saisons, il y a combien de saisons là sur cette série? Au total, j'essaie de vous dire ça. Il y a 5 saisons. On a de quoi voir venir. Voilà, on en est déjà à la saison 3, mais on a pas mal enchaîné là-dessus. Hein. On a arrêté The First. Enfin voilà. Je regarde quand même s'il y a d'autres questions parce que je viens de vous faire un monologue sur les séries qu'on regarde. Des livres ou films prévus de lire ou voir à revoir pendant vos vacances. J'ai pas eu le temps de me plonger là-dessus. Mais oui, Guillaume, il faut absolument que je me mette un roman, hein, vraiment un truc où tu poses ton cerveau. Enfin, pas forcément où tu poses ton cerveau, mais un truc, un roman. Je veux pas un livre de développement personnel, etc., etc. J'ai besoin de juste vacances. Mais j'ai pas encore regardé. J'ai des choses hein, que je mets dans mes livres dans ma liste d'envie, mais j'ai pas encore regardé. Une série que j'ai mis de côté et que je veux absolument regarder, ça peut être la dernière recommandation que je vous fais aujourd'hui, mais vous débrouillez pour la récupérer. Elle est disponible sur le site de la BBC One, mais qui limite. avec une barrière par pays. Voilà. Donc vous vous débrouillez pour la récupérer. C'est la série Staged où on retrouve le duo d'acteurs qu'on avait pour Good Omens. La Good Omens, la série anglaise dont je vous avais parlé, qui était tirée d'un roman de Terry Pratchett, où on avait comme acteur. Parce qu'il y a deux acteurs qui s'appellent à peu près de la même manière, donc je ne veux pas me tromper. Michael Sheen et David Tennant. Voilà. Donc on retrouve Michael Sheen et David Tennant, les deux acteurs principaux de Stage. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une mini-série bizarre qui a été faite durant le confinement. Je trouve ça génial, en fait. Voilà, je trouve ça vraiment super. C'est des épisodes de 15 minutes qui ont été tournés avec les caméras frontales des ordinateurs ou des webcams, etc. Et en fait, c'est l'histoire de deux acteurs qui doivent préparer une pièce de théâtre et juste qu'ils n'y arrivent pas, quoi. Et donc, on les voit tergiverser, procrastiner devant leur écran et interagir l'un avec l'autre, où ils sont d'une mauvaise foi totale. Bref, un jeu d'acteur qui a l'air incroyable. J'ai pas regardé, mais j'ai écouté la présentation du podcast Season 1 qui en parlait. Et voilà, voilà, ce podcast m'a donné une envie incroyable de regarder cette série parce que j'adore l'humour anglais. Ça a l'air d'être purement ça, de la mauvaise foi anglaise. Génial, où on voit justement chacun des acteurs confinés chez eux avec leur famille. Donc on voit aussi leur famille et leurs enfants et dans d'une manière qui n'est pas du tout à leur avantage. Ils se laissent complètement aller avec la barbe, les cheveux, enfin, ils ont des têtes incroyables. Je vais peut-être vous montrer une photo juste et puis après je vous laisse. Juste pour vous donner envie. Voilà. Voilà un peu la tête qu'ils ont. En confinement, on n'était tous pas très très reluisants, mais vous voyez qu'on voit leur intérieur, tout simplement, et ils sont nature, quoi. Et a priori, ça a l'air d'être de la pure comédie. Anglaise très excellente. Donc vous pouvez y accéder sur le site de la BBC One gratuitement. C'est des épisodes de 15 minutes, donc très courts, et je crois qu'il y en a 8-10. Voilà. Voilà, là-dessus, c'est la fin de l'émission. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Il est 9h12, ouais, c'est ça. Et ben, je vous dis à pas très bientôt, puisqu'en fait on va être en vacances, enfin pas en vacances, mais il n'y aura pas de mug du 27 juillet au 15 septembre. Donc je vous dis à bientôt, de retour mi-septembre pour le retour du mug. Donc ne ratez pas, ne vous inquiétez pas, il y aura des lives quand même durant août. Donc on ne disparaît pas complètement de la grille, on reviendra, mais pas de mug en tout cas. Donc rendez-vous demain matin pour le mug avec Guillaume à 8h, comme d'habitude, et profitez justement de cette semaine pour le mug. Très bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye!